Il n'y a pas de fatalité que nous ne puissions pas vaincre.
Avoir raison avec Jacques Ellul. Juliette Devaux.
Seulement alors, il faut des raisons très profondes pour se mettre à lutter. Il faut avoir des convictions très fortes.
Bonjour et bienvenue dans notre série consacrée à Jacques Ellul. Aujourd'hui, dans ce quatrième épisode, Jacques Ellul, un précurseur de l'écologie politique. Si l'on vous parle de remise en cause du travail salarié, de fédéralisme politique et d'appel à la sobriété, vous penserez probablement au programme d'un militant écologiste du XXIe siècle. Pourtant, c'est dans la période de l'entre-deux-guerres que Jacques Ellul, alors âgé de 23 ans, émet ses propositions dans un texte visionnaire daté de 1935 et intitulé « Directive pour un manifeste personnaliste ». Ce texte, Jacques Ellul le coécrit avec Bernard Charbonneau, cet autre précurseur de l'écologie politique plus méconnu, dont la rencontre fut absolument décisive pour Jacques Ellul. Mais l'engagement de Jacques Ellul pour la défense de l'environnement est loin d'être uniquement théorique. Alors qu'en 1972, l'État lance une mission interministérielle visant à transformer une partie de la côte aquitaine en station balnéaire, Jacques Ellul et Bernard Charbonneau s'organisent en comité de défense et luttent pendant des années pour faire abandonner ce grand projet d'État. Comment expliquer un tel engagement chez Jacques Ellul, lui qui avait décidé de se retirer de la vie politique et revendiquait le fait de ne jamais voter ? Pourquoi, selon lui, la seule posture politique pertinente dans nos sociétés modernes est-elle celle de l'anarchiste ? Qu'aurait-il pensé des actions de sabotage pratiquées par certains mouvements écologistes aujourd'hui ? Bref, comment avoir raison avec Jacques Ellul, penseur de l'écologie politique ? C'est ce que nous allons voir dans ce quatrième épisode.
Ce que vous avez inventé, c'est une sensibilité écologique.
Effectivement, l'écologie ou la réflexion sur le conflit entre technique et nature était un moyen pour attaquer par un autre angle le problème de notre société.
Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Édouard Piégui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant spécialisé sur les questions technologiques, auteur d'une biographie de Jacques Ellul récemment publiée aux éditions de l'Escargot en 2024. Jacques Ellul face à la puissance technologique. Vous côtoyez les mouvements technocritiques et vous avez suivi la diffusion de la pensée de Jacques Ellul dans ces mouvements. Merci d'être avec nous. Et j'ai également le plaisir d'accueillir à distance José Beauvais depuis Montredon qui va également nous parler de l'engagement écologique de Jacques Ellul. Merci d'être avec nous, José Beauvais.
Merci, et je pense que ça va être très intéressant, donc voilà, j'ai hâte.
Merci beaucoup. Alors les auditeurs vous connaissent plus pour vos actions de désobéissance civile marquante contre certaines multinationales et contre aussi les cultures d'OGM. Et pourtant, vous êtes aussi un excellent connaisseur de l'œuvre de Jacques Ellul que vous avez rencontré dans les années 70. Et vous dites que son approche a été déterminante dans la construction de votre pensée critique et dans votre combat militant. Vous allez nous expliquer pourquoi. Merci donc à tous les deux d'être là. Pour commencer cette émission sur l'engagement écologiste de Jacques Ellul, je pense qu'il est important d'introduire une figure qui a été justement déterminante dans sa sensibilisation à cette cause. C'est Bernard Charbonneau. Vous revenez sur leur rencontre, Édouard Piégui, dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous présenter qui était cet homme et pourquoi il a eu cette influence sur Jacques Ellul ?
Ils se sont rencontrés au lycée et c'est vrai qu'ils étaient très différents puisque Jacques Ellul était plutôt un élève studieux, brillant, très, très travailleur. Et c'est vrai que le côté un peu plus désorganisé, plus fantasque de Bernard Charbonneau lui faisait un peu peur, mais ils étaient très différents et ils ont discuté ensemble et il s'est rendu compte que Charbonneau avait une grande culture livresque, qu'il avait beaucoup lu, beaucoup plus finalement que lui. Et du coup, ça l'a surpris. Ils ont noué une très forte amitié. Et du coup, c'est une œuvre quasiment double, en fait, on pourrait dire, même si bien sûr, ils ont chacun leur œuvre. Et Ellul a été bien plus reconnu que Charbonneau. Et donc, ça peinait aussi Ellul, qui toujours essayait de promouvoir Bernard Charbonneau, même s'il a quand même publié des livres de son vivant, notamment Le Jardin de Babylone chez Gallimard. Mais il n'a pas eu la reconnaissance. Et ils se sont partagés, ils le disent eux-mêmes, la technique pour Ellul et l'État pour Charbonneau, même si plus largement, la critique écologique des destructions écologiques en cours par Charbonneau, il appelait ce qu'il appelait la grande mue aussi. Il a effectivement écrit et fait une conférence à Bordeaux avant la guerre, et il montrait comment depuis 150 ans, les développements technologiques, le développement industriel avaient détruit nos conditions d'existence.
Et ce qui est intéressant, en effet, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de redécouvrir les livres de Bernard Charbonneau qui font l'objet d'un travail de réédition. Et c'est un homme aussi qui a été assez visionnaire, puisqu'il disait assez tôt, il avait cette formule, on ne peut poursuivre un développement infini dans un monde fini. Donc une formule, en effet, assez prémonitoire. Et pour découvrir cette figure, je renvoie au livre de Patrick Chastenet, Les racines libertaires de l'écologie politique, dans lequel il revient sur cet engagement écologiste. Tous les deux vont en effet se rapprocher d'un mouvement dans les années 30. Ils rencontrent en 1933 Emmanuel Mounier, qui est donc le fondateur de la revue Esprit, mais qui est également à l'origine du mouvement personnaliste, qui est un courant politique qui revendiquait de revenir à l'échelle individuelle. José Bové, pourquoi cette approche du personnalisme a résonné avec ce que pense Jacques Ellul sur justement l'approche individuelle?
Ce qui est difficile pour répondre, c'est de savoir qu'est-ce qui a pu l'orienter dans cette direction. Est-ce que c'est déjà la réflexion chrétienne? Est-ce que c'est ce qui se passe de l'autre côté des Pyrénées, puisqu'on est en pleine ébullition sociale en Espagne? La révolution espagnole n'a pas commencé, le coup d'État de Franco n'a pas eu lieu, il faudra attendre 36. Et donc, on est à un moment un peu charnière où la réflexion, et notamment dans le Sud-Ouest, est très liée à ce qui se passe aussi du côté de l'Espagne et notamment de la Catalogne. Donc, on a à ce moment-là une réflexion et, je dirais, plein d'entrées qui ramènent l'individu au cœur. Toute la question de la révolution, tous les deux, que ce soit Bernard Charbonneau ou Jacques Ellul, ont ce mot « révolution » en permanence à la bouche, parce qu'ils savent qu'il faut changer radicalement les choses. Or, ce qu'ils ont en exemple face à eux, c'est d'abord la révolution bolchévique, avec dès le début des critiques qui sont connues dès le tout début des années 1920, et de l'autre côté, le fascisme qui se met en place en 1922 et évidemment qui se déplacera, augmentera à partir de 1933 en Allemagne. Donc cette question de l'individu dans la révolution, de la nécessité de la révolution, mais quelle révolution?
Oui.
Et ça, c'est une question centrale et qui s'élargira et qui se renforcera après 1936 encore, avec une radicalisation qui est amenée par tous les exemples qui viendront de la révolution espagnole, notamment sur la question de l'agriculture en Aragon, mais pas que. Toute la force de la CNT, la Confédération nationale du travail espagnole, qui est anarchiste et qui développe une auto-organisation dont Jacques Ellul fera toujours référence.
Oui, pour lui, en effet, une révolution, une vraie révolution face justement à ces autres propositions serait une révolution qui partirait de l'individu pour être vraiment efficiente, parce qu'il considère que le système technicien mène à une forme d'atomisation de l'individu. On va l'écouter à ce propos, c'était en 1972, écoutez-le.
Toute la participation au système technicien nous fait éclater en tant qu'individu. Nous sommes parfaitement habitués à penser d'une façon et à agir d'une autre. C'est-à-dire que notre pensée ne débouche jamais sur une action, et notre action n'est plus pensée par nous, elle nous est finalement rigoureusement imposée par le système. C'est bien entendu ce que l'on me reproche. Mais ça, nous sommes en présence là de cet éclatement. Alors, de même, l'éclatement entre l'homme qui travaille un travail inacceptable, insipide, ridicule, etc., et qui va avoir une vie qui aura un sens grâce au loisir. Éclatement de la vie en deux, c'est en permanence ce noyau de l'être humain qui est mis en question et qu'il faut essayer de reconstituer.
Ouais, c'est une archive du film documentaire Le Jardin et la Ville, réalisé par Jean-Pierre Gallon en 1972. Donc là, on entend bien, comme il considère que le système technicien, en effet, atomise l'individu, ce qui va le mener à se rapprocher, vous le disiez, José Bové, des courants anarchistes, avec cette idée qu'il adhère à un anarchisme, mais dans des circonstances spécifiques, et dans les circonstances du système technicien de nos sociétés modernes. Édouard Piquet, est-ce que vous pouvez revenir sur ce qualificatif tentative d'anarchiste circonstancielle.
Ce qui est évident, c'est que quand on parle du personnalisme déjà avant son anarchisme, c'est redonner à la personne sa capacité de libre arbitre, de liberté intérieure, etc. Et ça, c'était très important dans les années 30, puisque on avait des grands systèmes politiques qui se mettaient en place. Vous avez parlé du fascisme, du communisme, du capitalisme de marché, donc des États. Retrouver dans son rapport intersubjectif, interpersonnel, une vraie vision, ce que défendait aussi Mounier au départ du personnalisme avec esprit, en disant que l'homme ne devait pas se comporter comme un distributeur de consignes, en fait. Ce qui se passe dans les grands partis, ce qui se passait évidemment dans les grands courants politiques et les grandes idéologies qui impriment une forme de doxa. Et ça, le personnalisme, c'était très novateur, et leur directive, effectivement, ils étaient très jeunes quand ils l'ont écrit, c'est vraiment des textes magnifiques. Et après, en droite ligne, effectivement, il a toujours été inspiré par l'anarchie, et par la vision d'une contestation de l'autorité quand elle n'est pas légitime. C'est le principe même de l'anarchisme.
Et oui, vous le mentionnez, en 1935, ils écrivent avec Bernard Charbonneau, ce qu'on considère aujourd'hui comme un texte pionnier de l'écologie politique, les directives pour un manifeste personnaliste. Et dans ce texte, ils appellent déjà à la décroissance, ils utilisent le terme de cité ascétique, ils plaident pour un fédéralisme politique très prononcé, avec une organisation communautaire. Et cette approche radicale qu'on retrouve dans ces textes ont valu à Jacques Ellul récemment d'être qualifié d'écologiste réactionnaire ou anti-moderne. Et vous rendez compte, Édouard Piely, de ces critiques dans votre livre. Comment doit-on les interpréter, ces critiques ? Est-ce qu'elles sont légitimes ?
Moi, je pense qu'elles se trompent. Parce qu'effectivement, on ne peut pas accoler la dénomination de réactionnaire à Ellul, qui a toujours été proche non seulement de l'anarchisme, mais pour des communautés spontanées, mais pour cette liberté donnée à l'homme à chaque fois. Par contre, effectivement, notamment Pierre Charbonnier, j'en parle, puisqu'il a écrit un texte critique d'Ellul.
Jacques Ellul, l'écologie contre la modernité, c'était en 2015.
C'est ça. Et Daniel Cérézuel lui a répondu en montrant que sans doute il n'avait pas bien identifié la pensée d'Ellul. Mais il y a peut-être parmi les nouveaux courants de l'écologie, ou en tout cas les gens qui ont un certain pouvoir, comme Pierre Charbonnier, un pouvoir académique en tout cas, de critiquer, de taper sur la figure d'Ellul pour exister, pour se démarquer de ce qu'a été Ellul, tout en ayant une lecture parcellaire, ou en tout cas prendre des éléments sans comprendre la grande pensée dialectique d'Ellul, qui pensait aussi contre lui-même, il y a toujours une pensée qui avance, et on peut pas morceler et sortir de son contexte des choses. Et en aucun cas, la pensée d'Ellul ne va amener vers un système fermé, autoritaire, recroquevillé, survival au droit tard, ou n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire, ça peut pas amener, la pensée d'Ellul ne sera pas récupérée, elle n'est pas récupérable. Par contre, on peut l'utiliser en saucissonnant, en tronquant des éléments, ou lui faire dire d'autres choses. Donc aussi bien du côté de l'extrême droite, ou aussi bien du côté de l'écologie qui se veut officielle, ou l'écologie grand courant, ou la pensée écologique dominante, on va dire, qui aura tendance à taper sur Ellul. Mais il ne saura pas, ce que je dis dans mon livre, c'est qu'il ne saura pas récupérer. Il ne peut pas être récupéré, parce qu'en lit profondément la pensée d'Ellul, on voit bien que c'est voué à l'échec, en gros. C'est valable pour Alain de Benoît, comme pour Pierre Charbonnier, comme pour les fondamentalistes aux États-Unis. En fait, il n'y a pas cette pensée, elle défend la liberté en son cœur.
Et puis notamment, il n'y a pas d'idée de sacralisation de la nature ou de sacralisation d'une époque antérieure, d'une époque passée. Mais en effet, on peut renvoyer à l'article de Daniel Cérézuel sur la question qui reprend l'argumentaire de Pierre Charbonnier. Pour revenir à Jacques Ellul et à son engagement pour la défense de l'environnement, dans les années 70, il va de nouveau s'engager sur le terrain. Il anime des groupes de discussion en pleine nature, de nouveau avec Bernard Charbonneau. C'est aussi dans le cadre d'animation de groupes non violents que vous faites, vous, sa rencontre, José Bové, au début des années 70. En quoi la rencontre de la pensée de Jacques Ellul a-t-elle été déterminante dans la construction de votre critique de la société, dites-nous.
Alors, si on remonte à ces années-là, ce qui commence à faire maintenant quelques années, Moi, je fais partie à Bordeaux du comité des objecteurs de conscience, qui se réunit au siège des anciens de la CNT espagnole, qui sont arrivés en exil à partir de 1939, et ils nous permettent de nous réunir là en tant qu'objecteurs. Et dès ce moment-là, je rencontre Jacques Ellul, qui restera toujours proche du mouvement objecteur, et dans un groupe qu'on élargit ensuite, qui deviendra le groupe de recherche et d'action non violente de Bordeaux. Et il fait partie de ce groupe, qui est un groupe informel, et il participe à nos réflexions. Et souvent, il fait des conférences pour alimenter la caisse de notre groupe, parce que c'est le seul qui peut prendre la parole et ramener 3 sous si on met un chapeau à la fin. Et à Bordeaux, il donnait une salle à Jacques Ellul, la mairie a jamais refusé une salle à Jacques Ellul. Donc c'était c'était un rapport singulier. Et en parallèle, on a Bernard Charbonneau, qui lui continue sur la question de l'écologie et crée une première association qui s'appelle la CEPENSO, de protection de l'environnement, qui sera une des premières associations qui donneront ensuite naissance à FE2, aux Fédérations Nationales de l'Environnement. Et donc, la CEPENSO lance le mouvement de contestation du projet d'aménagement de la côte aquitaine. Et là, on est vraiment au tournant de 1970. Ça a commencé un peu avant. C'est une véritable planification de la destruction de la côte, de sa transformation touristique, et donc une espèce de volonté de faire de la côte aquitaine une nouvelle Floride ou une nouvelle côte ouest américaine, et c'est vraiment la bétonisation. Et les deux ensemble, Bernard Charbonneau et Jacques Ellul, prennent la tête publique de ce mouvement et réunissent énormément d'associations, d'individus, de groupes politiques aussi, qui se retrouvent dans cette contestation de l'aménagement de la côte aquitaine.
Oui, ils vont s'organiser en comité de défense de la côte aquitaine et ils vont présider donc en alternance Jacques Ellul et Bernard Charbonneau cette association justement pour lutter et puis pour jouer un rôle de contre-expertise face à la MIACA à partir de 72. Et finalement, ils vont réussir à faire abandonner le projet. Édouard Piégui, vous revenez sur cette action dans votre livre.
C'est une lutte victorieuse, donc c'est intéressant. Effectivement, comme le disait José Beauvais, c'était pour éviter que la côte aquitaine se fasse artificialiser et soit bétonnée telle que la côte d'Azur l'a été, en fait. Et ce comité de défense de la côte d'Aquitaine luttait contre la MIACA, donc la mission interministérielle d'aménagement de la côte aquitaine. Et ce qui est intéressant de voir, effectivement, comme le disait, il y a cette logique technicienne, mais ça a concentré le pire de cette opacité bureaucratique. En fait, le cumul à la fois d'un pouvoir capitaliste avec des gros projets financiers, un pouvoir technocratique avec une opacité de la prise de décision et en amont aussi donc les ingénieurs et les techniciens, et une opacité bureaucratique, en fait, des pouvoirs bureaucratiques. Et donc, ils se sont battus pied à pied, et ce qui est beau, c'est que ça a été victorieux. C'est la même chose, en fait, on retrouve cette opacité dans tous les grands projets aussi inutiles et imposés.
On appelle, en effet, grands projets inutiles et imposés, et contre lesquels Jacques Ellul s'est élevé toute sa vie. Il s'est opposé aussi au TGV, à la politique tout auto. À un moment donné, il s'est opposé aussi au programme nucléaire français. Il s'est opposé à beaucoup de projets qui étaient portés par l'État. Dans le même temps, il n'est pas connu pour avoir mené des actions de sabotage ou de démontage, comme vous l'avez fait, José Beauvais. Le 12 août 1999, vous avez procédé au démontage du McDo de Milo, une séquence qui est aujourd'hui évidemment très célèbre. Est-ce qu'on peut dire que cet acte est un acte ellulien, comme certains ont pu le dire après coup, José Beauvais ?
Alors, je pense que Jacques Ellul détesterait qu'il y en ait un tampon et des médailles élluliennes. Hein.
C'est vrai.
Je pense que ça serait un peu contradictoire. Ce que je pense, en tout cas, c'est que quand on mène cette action... Alors, est-ce que je pense à Jacques Ellul à ce moment-là ? Certainement, mais sans que ça soit vraiment aussi clair. Par contre, quand on fauche les champs de GM, oui. Et là, quand on commence à mener les actions dès 1996-17 contre les organismes génétiquement modifiés dans les champs. Là, effectivement, c'est typiquement une réflexion par rapport à un mode d'agriculture, par rapport à la domination de la technique sur le vivant, puisque là, on bidouille au niveau du gène. Et donc là, on est en train de transformer radicalement ce qui fait quand même l'essence du vivant. On modifie le génome. Et là, pour moi, c'est vraiment une étape de plus dans ce que dénoncent Jacques Ellul et Bernard Charbonneau. Et cette forme de résistance en fauchant de manière symbolique les champs de la recherche agronomique, ce qui fait un scandale. On fauche aussi, on détruit du riz transgénique à Montpellier dans les serres de la Cirade où Monsanto travaille, mais les chercheurs, la majorité des chercheurs ne le savent même pas eux-mêmes, etc., etc. Effectivement, se crée une situation qui est typiquement élulienne, parce qu'elle se fait avec des réseaux relativement limités, même si on arrive à être quelques milliers sur certains fauchages. Mais il y a aussi cette volonté d'assumer les actes et de dire, voilà, on l'a fait. Donc c'est à la fois l'action élulienne sur le fond et l'analyse, et l'action non-violente sur le terrain.
Oui, en effet, Jacques Ellul n'était pas opposé aux actions de désobéissance civile, ni d'ailleurs aux actions de sabotage pour enrayer la machine technicienne. En revanche, s'il y a un recours qui n'en était pas un pour Jacques Ellul, c'est le recours aux responsables politiques. Il a une expérience d'ailleurs assez compliquée en tant que responsable politique lui-même. Il disait ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants pour signer les dossiers qu'on lui présentait à la fin de ses journées. On va l'écouter à propos des responsables politiques et de leur impuissance. C'était en 1992.
Je crois que l'homme politique est un homme extrêmement démuni. Il dépend tellement de tout ce qui est avant et de tout ce qui est après. C'est-à-dire que tout ce qui est avant, les rapports, les études techniques, etc., etc., il va prendre sa décision en fonction de ça. Et sa décision, elle sera ensuite appliquée par des administrations. Comment ? C'est aussi un problème qui n'est pas du tout clair. Alors, l'homme politique m'apparaît comme réellement, au fond, le paravent.
Vous avez pourtant, vous, décidé, José Bové, de vous engager en politique et de candidater à l'élection présidentielle en 2007. Alors pourquoi cette trahison au principe élulien ?
Alors, là, c'est un peu comme les médailles. Il n'y a pas de dogme élulien. Alors, il y a des pratiques, et puis chacun essaie de se débrouiller avec ça en réfléchissant et sans sortir de l'analyse. Je dirais que pour moi, la première fois que je me suis retrouvé confronté à cette question de l'élection et la pensée de Jacques Ellul et de sa pratique en 46, quand il est adjoint au maire à Bordeaux, juste après la Libération. La première fois que je me retrouve confronté à cela, c'est en mai 1981, quand il y a le duel Giscard d'Estaing-Mitterrand au second tour de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut, comme l'a annoncé Jacques Ellul dans Le Monde, où il fait un texte dans lequel il dit qu'il votera ni pour l'un ni pour l'autre, parce qu'il y en a un qui va construire le Concorde et l'autre l'inaugurer, puis un autre va faire le TGV et le deuxième ou le troisième après l'inaugurera, et que donc en fait toute cette logique de fond en fait est la même quelle que soit la couleur politique, et ça je l'entends, et effectivement ça fait partie des choses qu'on voit et qu'on voyait déjà depuis un certain nombre d'années. Donc ça me paraît complètement logique. Et en même temps, moi, je me suis sur un endroit particulier qui est le plateau du Larzac, où on vient de lutter pendant 11 ans contre l'extension du camp militaire. Giscard dit « Si je suis élu, le camp se fait. » Et Mitterrand dit « Si je suis élu, j'annule ce projet de camp militaire, comme il fera aussi pour la centrale nucléaire de Plogoff. » Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ce combat ? Est-ce qu'on se dit, eh ben, on reste et puis on laisse les autres choisir à notre place ou on y participe? Eh ben, ça, c'est une vraie question. Et eh ben, voilà. Moi, j'ai assumé à ce moment-là de dire, oui, il y a des moments, il y a des choix possibles.
Oui, Jacques Ellul était opposé à l'idée que les écologistes s'organisent en parti politique, considérant qu'ils perdraient leur rôle de contre-pouvoir en étant absorbés de fait par le système technicien. Alors, vous n'avez jamais adhéré à un parti, vous, José Bové, mais vous êtes engagé en politique en devenant député européen, parce que pour vous, c'est à cette échelle qu'il est possible de changer les choses. Jacques Ellul parlait de la nécessité d'agir local et de penser global. Est-ce qu'il y a des pistes d'espérance quand même qu'on pourrait retrouver dans l'œuvre de Jacques Ellul, Édouard Pierry ?
Il n'y a pas de, effectivement, il n'y a pas de déterminisme pour Ellul. Donc, c'est comment on articule le côté personnel et le côté collectif aussi, puisqu'on s'organise avec d'autres. Forcément, on part de nous, mais on s'organise avec d'autres. Et c'est très beau quand il dit que de toute manière, pour lutter contre cette logique technocratique ou technicienne, on doit s'organiser de manière à petite échelle, mais c'est-à-dire localement. Il parle des groupes marginaux, ben des marginaux divers, des écologistes non politiques, des mouvements féministes, du ressourcement des chrétiens dans leurs origines, des nouveaux hippies, des communautés spontanées. Il y a tous ces éléments-là, et c'est comme ça, à mon avis, qu'on peut lutter. Et ils le disent tous les deux dès leur les directives pour un manifeste personnaliste. Qu'on combat une société, on lutte contre cette société de l'extérieur. Parce que sinon, on applique, encore une fois, à chaque fois, les mêmes logiques de la société. Ça peut avoir quelques effets, effectivement, ça marque, ou ça a un effet symbolique, ou ça peut avoir un effet spectaculaire, mais ça n'a pas un effet réel, concret, dans le sens où Ellul défendait cette vision radicale, et je la partage parce que je sens qu'elle est juste, en fait, parce que sinon, on reproduit les mêmes écueils, les mêmes fausses pistes. Et donc ce niveau d'espérance, et c'est ce que font d'ailleurs les mouvements écologistes actuellement, et c'est ce que font localement, pas seulement les mouvements écologistes, hein, les gens qui s'organisent localement pour préserver leurs conditions de vie. Ça peut être aussi sur différents combats sociaux, hein, pas seulement sociaux, écologistes.
Donc revenir peut-être aux préconisations, qui ont été émises en 1935, peut-être que 2025 peut être influencé par ces préconisations. D'ailleurs, j'aimerais qu'on entende un extrait de la dernière partie du texte directif pour un manifeste personnel daté de 1935.
Tout ce que nous avons dit jusqu'ici montre que le problème de la révolution se pose non seulement sur le plan politique ou économique, mais sur le plan de la civilisation elle-même. Sur le plan des mœurs, des habitudes, des façons de penser, sur la vie courante de chacun de nous, sur son journal et son repas. La révolution doit se faire par des hommes, pour des hommes, et ce qu'ils ont de meilleur en eux. La révolution doit se faire contre la misère et contre la richesse, pour que chaque homme trouve dans une cité volontaire ce qu'il lui est nécessaire de vivre. Fût-ce un minimum de vie pour tous, mais que ce minimum de vie soit équilibré, soit à la fois matériel et spirituel. L'homme crève d'un désir exalté de jouissance matérielle, et pour certains, de ne pas avoir cette jouissance. Que tous ceux qui croient avoir un rôle à jouer dans la révolution qui vient, contre une civilisation qui ne vit que de notre mort, se préparent en eux-mêmes.
Eh bien, je dirais que, à la fois, il enjoint aux hommes de se réunir pour agir, et en même temps, il sent bien que ça va être très compliqué et très dur. Et là, il rebascule et il parle d'espérance. Et en même temps, il faut le faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de possibilité de refuser ce qui fait notre liberté, c'est-à-dire de pouvoir changer les choses, au moins de vouloir essayer de les changer. Et puis, on ne va pas commencer à s'attaquer entre ceux qui essayent de le faire. Il faut essayer d'avoir une pensée constructive pendant le combat. Et ça, c'est ce que Jacques Ellul aussi dit.
Il n'y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, des anarchistes.
Merci à tous les deux pour vos éclairages. Merci beaucoup, José Bové, d'avoir été avec nous à distance depuis le Larzac. Merci à vous, Édouard Piégui. Je renvoie donc à la biographie de Jacques Ellul que vous avez publiée aux éditions de l'Escargot, Jacques Ellul face à la puissance technologique. Et je remercie à la réalisation de cette émission Manouchak Fachaï et Margot Page. Et à la technique, c'était Ludovic Auger et Grégory Wallon.
La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais. Que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes, ils sont morts 110 fois pour que dalle et pourquoi. avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et elle n'a pas un sursang, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Qu'il n'y a pas un sursang et que pourtant ils existent. Et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.